Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais remercier Thomas Romer et aussi Hervé Gonzalez. Le sujet de ces colloques est certes très captivant et très à la mode depuis que les études du genre ont fait leur apparition dans la recherche sur le Proche-Orient ancien et la Bible, très en retard par rapport à d'autres domaines quand même. On pourrait dire que les fictions cinématographiques ont avancé les études du genre, Cléopâtre par Liz Taylor ou La Reine de Saba par Gina Lollobrigida, si ces fictions n'étaient pas un prétexte pour raconter des histoires d'amour et finir ainsi dans les stéréotypes femme égale amour. La femme, même en reine, ne peut qu'être vue par les hommes qu'à travers la fascination qu'elle exerce sur eux, malgré elle ou à propos. Les reines historiques d'Élisabeth d'Angleterre à la fameuse Sissi d'Autriche, à la reine anglaise aujourd'hui, ont aussi fait rêver et ont inspiré les portraitistes officiels. Alors, quelle était la situation dans la Mésopotamie d'il y a 5000 ans? L'époque ici choisie, appelée protodynastique 2 et 3, 2750-2350 à peu près, merci, époque des Sumériens, est souvent considérée comme moins patriarcale que celle des Sémites. Les textes protodynastiques citent en effet beaucoup de noms féminins qui pourtant nous restent inconnus. À part Pouabi, connue à cause de la richesse de sa tombe, toutes les autres reines sont tombées dans l'oubli. Je me suis donc ici basée sur les inscriptions royales et sur les données archéologiques, notamment les représentations iconographiques des reines, pour chercher de donner un visage à ces noms. J'ai traité toutes les femmes citées dans les inscriptions royales, donc non seulement les reines, mais aussi les princesses, les filles des rois. Mais c'est quoi, au juste, une reine ? Dans les inscriptions royales, il y a deux termes, épouse du roi, sumérien, dame, et reine, sumérien, nine. Dame traduit l'acadien Ashatu, épouse, et l'acadien Mutu, époux, puisque les sumériens ne distinguent pas masculin, féminin, mais seulement animé, inanimé. Les signes nine, Séli et Resh, qu'on correspond à l'acadien Beltu, madame, ou Charatu, reine, et Sélinine, quand il correspond à sœur ou propriétaire. Sur les 21 femmes connues, que vous pouvez voir ici dans les tableaux A, connues par les inscriptions, 3, Kubaba, Pouabi et Paba, seulement sont définies reines. 12 sont mentionnées comme épouses des rois, Akalam, Alma, Ashurmen, Ashur-Sikilam, Barirnum, Bar-Namatara, Enzantu, Emma-Bara-Abzu, Nintur, Papa et Paun. La formulation n'est pas anodine. Quand les titres ne dépendent pas de leur époux, on pourrait penser que ces femmes ont exercé effectivement les pouvoirs. En effet, il est d'habitude dans les inscriptions officielles de donner les titres par rapport à l'ordre d'importance. Ainsi, l'époux d'une déesse sera présenté comme son époux dans les inscriptions, mais jamais l'on pourra dire que la déesse est son épouse. En effet, l'une des trois femmes définies Nin, Kubaba, est la seule reine citée dans la liste royale sumérienne dont elle a dû exercer réellement un pouvoir politique. La liste lui attribue un règne très long, 100 ans, mais ses prédécesseurs auraient régné selon la même liste entre 1560 ans et Tana et 60 ans. Et Kubaba, connu aussi par Anomène et par quelques mentions dans d'autres textes, est présenté comme cabaretière. C'est une manière peut-être de souligner son origine modeste ou c'est une allusion à un quelconque rapport avec la prostitution sacrée, vu que la boisson est souvent liée à l'acte sexuel, comme montre par exemple cette image, et donc en charge sacerdotale précédant l'élection à reine. D'ailleurs, au moins pour ces anciens rois, certains ont exercé la fonction sacerdotale avant de devenir roi, comme En-Intarzi, qui devient roi de Lagash pendant 5 ans. De même, Ashur-Sikilam, l'épouse d'Akalandu, roi d'Ur, porte un nom qui voudrait dire « son père est un purificateur ». Je ne peux pas vous donner des dates précises pour tous ces rois, vous tenez compte qui ont vécu entre 2600 et 2400, parce que les dates ne sont pas encore très bien connues. Mais ni Pouabi, ni Paba n'y rentrent dans la liste royale sumérienne. Alors, est-ce qu'elles ont vraiment régné? La situation est encore plus complexe. Une reine, Nintour, épouse des Mesanépad, qui dans une inscription se dit dame, femme d'eux, dans une autre se dit Nin, reine. Alors, soit les inscriptions font référence à deux moments différents, l'un dans lequel la femme dépend de son mari, les rois, et l'autre dans lequel, étant les rois absents en voyage ou mort, elle a les titres royaux, soit la circonstance particulière, une inscription votive personnelle, donne les droits à l'épouse royale de se présenter comme reine, et non simplement comme femme des rois, mais sans avoir eu un réel pouvoir politique. La situation est encore plus complexe quand cela arrive dans un sceau cylindre trouvé à Ur, l'inscription utilise ensemble Nin, reine, et dame, épouse. Le sceau d'Ur dit Nimbanda, Nin, dame, Mesanépad, c'est-à-dire Nimbanda, la reine, épouse de Mesanépad. Dans les inscriptions royales, cinq femmes, Abda, Djemibaba, Medjirimta, Nin, Nemetbare et Ninuzu, sont dites filles des rois, sumériens d'Umu. Donc, elles n'exercent pas les rôles des reines, mais de toute évidence, leur position est supérieure à celle de leur époux, dont aucune d'entre elles n'est appelée l'épouse. Au contraire, c'est le mari de Medjirimta qui est cité comme son époux, et pas l'inverse. Enfin, une seule femme, Gan Kugelsig, est prêtresse. Les faits qu'elle apparaisse dans les inscriptions royales, qu'elle soit vouée dans les grands centres religieux auxquels les rois acadiens et ensuite néo-sumériens consacreront leurs sœurs et filles, et qu'elle soit enterrée dans les cimetières royales d'Ur, rend très vraisemblable qu'elle soit fille ou sœur ou petite fille des rois. Donc, sur 21 femmes, 15 sont reines, c'est-à-dire épouses ou reines, et 6 princesses. Les rois citent plus souvent ces femmes que ces filles, ou alors les épouses ont plus de raisons d'écrire un texte à leur nom que leurs filles. Mais la situation est complexe. Pourquoi les rois Ur-Nanshe insèrent dans la liste de ses enfants une seule de ses filles, Abda, dans un texte, et dans une autre inscription, son épouse et une autre fille, Ninuzu? Il y a probablement ces raisons déterrent en partie de sa descendance, mais cela prouve que la documentation actuelle n'est pas complète. Et ce n'est pas parce que les rois étaient quelque chose qu'elle n'existait pas. Les inscriptions royales avaient des buts bien précis et distincts d'autres textes. La seule prêtresse connue vient d'Ur. Les trois reines, une d'Ur, une de Kish et une de Mari, les cinq filles des rois, de Lagash, Uruk, Mari, et les 12 épouses royales, Mari, Lagash, Ur, Uma, Uruk, Nippur. Si les femmes épouses des rois et filles des rois proviennent de toute la Mésopotamie, du nord au sud, les titres des reines est plus circonscrit. Une ville à l'extrême sud, Ur, une ville dans la partie la plus septentrionale du sud, Kish, et une au nord, Mari. C'est peut-être un hasard, mais Kish, c'est la ville où, tout juste après les déluges, la royauté descendit du ciel, comme dit la liste royale sumérienne, où Sargon d'Akkad était grand échanson du roi avant de prendre le pouvoir. Et le terme Sharkishati, roi de Kish, désignera la royauté sur toute la Mésopotamie et puis sur la totalité du monde connu. Ur, c'est la ville où il y a les cimetières royales au proto-dynastique, et c'est la ville aussi qui deviendra ensuite la capitale de l'empire héritier d'Akkad. Et Mari est la grande ville au croisement des routes d'Irak, Syrie, Anatolie, Iran et la Méditerranée. C'est donc pas peut-être un hasard. Cela voudrait dire, en somme, que les titres des reines seraient surtout utilisés dans les états les plus puissants et plus peut-être au sud qu'au nord. À part une, les inscriptions sont toutes courtes, puisqu'essentiellement votives, dédiées un objet à une divinité. On a en effet 12 inscriptions royales votives, 6 des propriétés, 3 des constructions, et une historique ou pseudo-historique. Les tableaux continuent aussi dans la slide suivante. Cette inscription sur 22 sont écrites par des hommes, époux, fils ou sujets du roi, mais la majeure partie, 68,2%, sont écrites par des reines ou princesses elles-mêmes. Une inscription de grand intérêt est celle d'Achurmène, femme d'Anaton Ier, car bien que très peu conservée, elle est sur un clou des fondations intercuites retrouvé à la surface du tel des Lagash, donc pas un contexte archéologique assuré. Il est donc possible qu'ici, on ait pour la première fois une femme impliquée d'une manière ou d'une autre dans une construction, ce qui est l'œuvre par excellence du roi. Une autre inscription très intéressante, et la seule un peu longue, est celle de Bara Irnum, épouse du roi d'Umma. Cette reine dédie un objet à une divinité en citant toute sa généalogie. Elle s'est dit femme des, fille des, petite fille des, et de cette manière, et cette manière de procéder est calquée sur le modèle des inscriptions masculines, roi, fils des, petit-fils des, etc. Géraldine Gadeau, qui a étudié 160 inscriptions du 3e au 1er millénaire avant Jésus-Christ, commanditées par ou citant des femmes royales, une centaine en tout, est arrivée à la conclusion que le genre n'a pas influencé les types d'inscriptions royales. En général, les femmes n'aiment pas se distinguer des hommes dans les inscriptions. Certaines arrivent même à se présenter comme des hommes ou avouer des objets considérés comme typiquement masculins. Masvotiv, encore à l'époque néo-sumérienne, qui est dédicacée par une femme. D'autres copient les formulaires et la structure des inscriptions des rois, comme montre l'exemple montré ici. Alors, le genre est moins important que les rangs sociaux et la fonction de ces femmes. Donc, notre point de vue est déjà biaisé si on voulait faire des études du genre. Bien sûr, les inscriptions royales n'épuisent pas à elles seules la connaissance possible. Les reines des Blas ne sont jamais citées dans les inscriptions royales, mais elles sont très bien connues par les textes administratifs. J'essayais alors de voir si d'autres femmes étaient citées dans d'autres types de sources, et effectivement, je n'ai trouvé, même si les catalogues risquent de ne pas être complets. En effet, dans certaines inscriptions royales, comme par exemple dans les inscriptions de Mes Kigala, roi d'Adab, on cite la femme et les enfants du roi de manière très vague, sans citer leur nom. Dans ces cas, on voit bien les rôles secondaires de la reine, annexés au roi. Aujourd'hui, cela serait vu comme résultat d'une conception machiste selon laquelle la femme n'est que la possession de l'homme. Mais pour l'ancienne Mésopotamie, c'est rien que des plus banals. Pourtant, les autres textes trouvés permettent d'élargir notre connaissance. Varanamtara, épouse de Lugalanda, roi d'Agelagash, citée dans les inscriptions royales, est aussi connue dans les archives des Girsu. Son époux, Lugalanda, avait par ailleurs deux filles, pas sûres avec Varanamtara, qui ne sont pas citées dans les inscriptions royales, Jemenanshe et Munussaga. Ninbanda, la reine, est connue par trois Sosilandes. Dans deux, elle est présentée à la fois comme reine et comme épouse de Mesanepad, et dans l'autre son, en revanche, elle se définit la reine. Est-ce qu'ici, de nouveau, on aurait deux phases différentes, une sans et l'autre avec réel pouvoir politique? Mais ce qu'il faut souligner dans tous les cas est qu'il s'agit toujours d'Ur. Et dans cette ville, ainsi qu'à Kish, les femmes royales semblent avoir eu un statut un peu différent des autres villes mésopotamiennes. Ninilisusu, la femme d'Entemena, est très attestée dans les textes économiques où elle semble avoir joué un rôle important. Dimtur, la femme d'Enentarzi, roi de Lagash, elle aussi elle est attestée par d'autres textes comme Shasha, la femme d'Urukagina. Enfin, les rois Urnanshe, donc on commence à connaître bien la famille composée de nombreux enfants et de plusieurs épouses, avaient entre autres comme femme Ebara Abtsu et comme fille Lida. Ainsi, en tenant compte des différents types de sources, les tableaux concernant les reines et les prêtresses et princesses s'agrandit d'une dizaine d'autres personnes, 28 au total, trois filles des rois, trois épouses du roi et une autre reine. Et dans la représentation artistique, comment apparaissent les reines? En absence d'inscriptions accompagnant les représentations, il est difficile de les dire. Certes, on a beaucoup d'images des femmes, un nombre certainement inférieur aux hommes à cette époque, mais consistant tout de même. mais sans une inscription qui puisse les identifier, il est difficile de pouvoir leur attribuer une identité. Dans les pays limitrophes de la Mésopotamie, comme par exemple en Syrie, où les élites sont nées au 4e millénaire par stimulation du contrôle des matières premières voulues par les sud mésopotamiens, les rois et ces femmes sont mieux caractérisés par l'habillement, par les couvre-chefs, par les symboles du pouvoir tenus dans les mains. Ces rois et les femmes aussi se distinguent mieux des autres notables. En revanche, les rois mésopotamiens restent un peu confondus parmi les autres notables de l'élite. Pas de vêtements spécifiques, pas d'objets spécifiques dans les mains. Seules les inscriptions peuvent mieux les identifier. Idem pour les femmes. Une autre idée largement diffuse est que la Mésopotamie se distinguerait des autres pays limitrophes car les rois et sa famille choisiraient les temples comme lieu privilégié des représentations du pouvoir, tandis qu'en Syrie, c'est plutôt les palais. Cette idée, en partie vraie, doit être pourtant nuancée. En effet, peu des palais sont connus pour cette époque. Mais ils ont déjà donné plusieurs représentations d'hommes et des femmes qui sont vraisemblablement des rangs royaux. Par exemple, du palais A de Kish proviennent 5 figurines en coquille qui ressemblent fortement à celles retrouvées à Ebla et qui servaient pour des représentations célébrant la royauté. Elles sont en train de marcher ou tiennent debout une coupe à la main, donc elles sont en train de participer à un banquet. Elles sont habillées d'une tunique lisse qui laisse découverte l'épaule droite, exactement comme dans les statues en pierre de cette époque. Et elles sont très bien coiffées, cheveux ramassés sur la nuque, petites boucles retombant sur les côtés du visage. Elles portent des bijoux, signe de leur prestige social. Même les rois, pourtant, portaient des bijoux. Encore ici, une autre catégorie moderne, sexiste, qui ne peut pas s'appliquer à la Mésopotamie ancienne. D'autres représentations des figures féminines royales ont été retrouvées à Tel Azmar. Parmi les 12 statuettes découvertes dans les temples d'Abou, 2, un homme et une femme, se distinguent nettement des autres par la taille et par certains détails, comme les yeux énormes. Parfois identifiées comme des divinités, elles ont pourtant la posture des rangs et ne se distinguent pas par type iconographique ni par symbole des autres statuettes avec lesquelles elles ont été retrouvées. Donc, comme suggérait déjà Agnès Piquet en 1981, il s'agit sans doute du roi et de la reine. Malheureusement, à cette époque, protodynastique 2, donc 2750-2600, les inscriptions sur les statues sont rarissimes et ainsi nous ne pouvons pas leur attribuer un nom. Les plaques en pierre protodynastique et les sous-cylindres protodynastiques représentent des femmes participant au banquet. Même s'il n'y a pas d'inscription, ces femmes appartiennent à l'élite, car seulement des femmes du haut rang pouvaient prendre part au banquet. Reste pourtant la question de savoir si elles sont des reines ou des filles ou sœurs ou petites filles des rois, ou simplement appartenant à l'élite. Dans quelques rares cas, il n'y a presque aucun doute que la représentation concerne les couples royaux. Dans la tombe des Pouabi, effectivement, vous avez les sous-cylindres qui portent son nom et qui est aujourd'hui au British Museum, représentent une scène des banquets. Mais vu les dimensions, il est difficile de se faire une idée de l'allure même des Pouabi, pour laquelle plusieurs propositions de restitution des parures ont été avancées. De même, dans les plaques perforées d'ornanchées, tout en position stratigraphique très délicate, les personnages sont accompagnés d'inscriptions qui permettent l'identification des personnages. Ainsi, on connaît un peu la physionomie des dames dont on vient de parler, ce qui nous les rapproche un peu plus. Les visages, aussi pour les Mésopotamiens, et les centres de la personnalité. C'est pour cela qu'ils cassaient toutes les statues lorsqu'ils voulaient effacer les souvenirs des souverains. Enfin, on a la chance de disposer également de quelques images des prêtresses, surtout des maris, habillées plus à la syrienne qu'à la mésopotamienne, mais toujours distinctes des femmes communes par l'habillement et surtout par les sous-cylindres qu'elles affichent à une époque. Par exemple, ici, à une époque où encore pour les hommes, c'était difficile d'en posséder un. De toute évidence, il s'agit des femmes de l'élite, certaines probablement d'origine royale. et d'autres images aussi féminines retrouvées dans les temples à Marie et à Dab sont plutôt des personnages royaux. Donc, de nouveau, dans la représentation officielle des reines et princesses, on retrouve quasiment les mêmes villes que celles des inscriptions royales, Kish, Marie et Jnuna. À la fin de cette analyse, peut-on dire alors que les reines sumériennes avaient plus de pouvoir que les reines sémites ? Voilà une question qui a tous les mérites de l'absurde. Car ça, c'est la manière typique de penser aujourd'hui, mais la question ne se posait pas dans l'Antiquité. Les chercheurs oublient souvent que c'est la manière d'analyser les sources et de les questionner qui peut influencer les résultats de la recherche, qui peut donc biaiser les résultats. Dans l'ancienne Mésopotamie, le pouvoir est le pouvoir d'un homme, même au niveau linguistique. Si les Sumériens ne distinguent en général pas féminin et masculin, pourtant Nin, la reine, ne peut pas indiquer les rois. Ainsi, les reines les plus entreprenantes essayent de se présenter comme hommes, comme Hatshepsut en Égypte, lorsqu'elles veulent gagner le pouvoir. Il n'y a pas question des genres, il n'y a pas une supposée liberté majeure des femmes sumériennes par rapport aux sémites. En effet, comme on connaît des noms des reines et princesses pour le troisième millénaire, on les connaît aussi pour les deuxièmes et les premiers. Mais à ce moment-là, il y a aussi une série d'archives concernant des femmes. De même, les reines qui ont clairement influencé la politique de leur époux ou fils sont les reines du premier millénaire. Naki Hatzakout, ou épouse de Sennacherib, mère d'Assarhaddon, Zamuramat, mais aussi Hadad-Gupi, la mère des Nabonides. Il n'y a donc pas un problème ethnique, mais politique. C'est probablement à la vacance du pouvoir mâle, roi absent, roi mort ou faible, que certaines reines ont tenté d'exercer les pouvoirs. Et pour se justifier, elles se sont attribuées un rôle masculin. Elles n'ont surtout pas dit « enfin, voilà une femme à la tête de l'État ». Dans des situations de crise, comme prouvent aussi les contrats d'adoption, les femmes en Mésopotamie peuvent jouer les rôles d'hommes, mais seulement temporairement, sans aucune revendication sexiste qui en dérive. Alors, force est de constater que l'idée d'une période plus matriarcale dans les pouvoirs politiques autant que dans la religion est une reconstruction des hommes, archéologues ou historiens d'aujourd'hui. Ces derniers, en plaçant dans un passé très lointain une supposée phase de libre pouvoir féminin, éprouvent probablement moins mauvaise conscience d'avoir longtemps exclu les femmes du pouvoir. Mais comme tout le monde sait bien, même si les hommes feignent souvent de l'oublier, l'homme n'est qu'une femme comme les autres. Alors, si j'avais encore le temps, je pourrais vous parler des rois du troisième millénaire qui sont souvent méconnus ou peu connus comme leurs femmes. Et je pourrais vous dire que certes, les études du genre ont eu le mérite d'échanger un peu la perspective, de regarder la réalité ancienne sous d'autres points de vue, mais l'ont aussi pollué, car ils sont très idéologisés et tous forcent à regarder la situation ancienne d'un point de vue contemporain, ce qui est un anachronisme. Et franchement, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle, la situation des femmes a été toujours la même. Fille à marier, épouse, mère, grand-mère, c'est-à-dire considérée à tout moment de leur vie, de l'enfance jusqu'à l'âge mûr, pour leur pouvoir de reproduction. Il y a certes des exceptions qui, malgré les études du genre, restent encore aujourd'hui aux marges de l'éducation officielle d'État. Celles-ci oublient, disons de manière très opportune, de parler aux enfants des peintres, des sculpteurs, des compositeurs, des écrivains, femmes, d'Artemisia Gentileschi, Elisabetta Sirani, Marietta Robusti, Fanny Mendelssohn, Camille Claudel, Sappho, Marie Schilling, Grazia di Leda, Jane Austen et les autres. Une partie desquelles vous pouvez regarder dans la dernière diapo, si j'arrive à retourner. Des génies qui ont souvent payé de leur vie, de leur intégrité physique et psychique, leur passion. Mais l'histoire, encore aujourd'hui, n'est qu'écrite par les vainqueurs. Merci de votre attention.